Suivez le guide, avec Elisabeth Boivin, guide interprète nationale du tourisme. Pour cette seconde saison, laissez-vous encore porter par sa fougue et sa passion à travers les chemins du patrimoine et de ses métiers. Elisabeth vous emmènera, sans avoir l'air d'y toucher, dans la réalité et dans le rêve d'hier et d'aujourd'hui. Et tout ceci est possible grâce à notre ami fidèle, Laurent, à la régie. Et nous voilà de plein pied dans la seconde saison de cette émission « Suivez le guide ». Et nous avons voulu, pour commencer, faire une rétrospective de la première saison que vous pourrez toujours écouter sur le site de Couleur FM en faisant les www.couleurfm.com. Et puis, vous cliquez dans la rubrique « Les magazines » sur « Suivez le guide ». Et pour commencer, Elisabeth, un poème en illustration de nos suggestions de balades précédentes. Nous sommes repartis dans nos balades de jardin.
Voilà. Je vous propose un poème tiré d'un recueil écrit par Mademoiselle Rivoire, dit Poupette, et qui a entretenu avec amour un jardin tout à fait merveilleux qui s'appelle le Paradis Fouilly à la Côte-Saint-André. De bon matin, on ira au jardin quand l'aube frôlera la cime des grands arbres. Les fleurs, peu à peu, sortiront du sommeil, elles tendront leurs corolles endormies, afin que la rosée en perles scintillantes pose sur leurs pétales un baiser matinal. Nous glisserons nos pas dans l'herbe reverdie, laissant un sillage sombre entre les pissenlits. Un parfum envoûtant montera de la terre, fragrance de jasmin, de rose et d'œillet blanc. Les merles à plein gosier reprendront les derniers chants des rossignols. Dans les sapins, la chouette, en un chant mélancolique, regrettera la nuit divine. On ira au jardin respirer le subtil parfum des fleurs qui s'éveillent.
Et on peut rappeler, Elisabeth, que l'on n'entre pas facilement dans ce paradis fouilli et que Poupette a des clés pour savoir si l'on peut rentrer dans son jardin ou pas. On le rappelle, on l'a
oui,
dit.
Oui, il faut le rappeler, effectivement, parce que Poupette est une très vieille dame, charmante mais âgée, et qui a toujours voulu que les gens découvrent son jardin. Mais sa façon de dire que le jardin était accessible, eh bien, c'était de fermer les portes, le portail de son jardin, de laisser les deux vantaux battants, voilà, liés par une chaîne. Et quand la chaîne est posée, on ne peut pas entrer. Par contre, si les deux battants sont un peu plus ouverts, cela signifie qu'on peut accéder au jardin. Enfin, c'était le code, si je puis dire, il y a quelques années. Maintenant, je ne sais pas
ce qu'il en est
de ce jardin, et je pense m'y rendre bientôt pour savoir et pour le revoir de toute manière avec beaucoup de plaisir.
Et peut-être de faire une interview sur place, pourquoi pas.
Alors,
Elisabeth, qu'avons-nous proposé l'année dernière, la saison dernière?
Oui, voilà, nous avons décidé de faire cette thématique filée, en fait, entre la saison dernière et cette année. L'année dernière, nous avons abordé l'histoire des jardins et au fil des siècles. Et cette année, nous verrons. Nous avons une autre formule. Il est important d'aborder le jardin dans son historique, dans son histoire. Et pour ça, il faudrait presque remonter au néolithique, parce qu'on se demande si le jardin n'est pas aussi vieux que l'homme, mais presque en fait, puisque les premiers hommes, dès qu'ils ont commencé à découvrir l'agriculture, ils ont sélectionné des plantes, ils inventent des outils, ils commencent à défricher. Et leurs petits enclos ressemblent presque à des petites fermes. Donc, on pourrait se demander, l'homme du néolithique avait-il déjà inventé, entre guillemets, le jardin ? Et cherchait-il déjà à organiser la nature dans le sens du beau ? Et peut-être qu'un jour, les archéologues nous donneront cette réponse. Nous sommes partis, néanmoins, nous sommes partis du jardin en tant que symbole fort de notre civilisation judéo-chrétienne. La Genèse, qui est une partie de la Bible, raconte comment Dieu créa le jardin d'Éden pour Adam et Ève. On a des représentations artistiques, en particulier sur le baptistère de Bourgoin d'ailleurs, ou de l'église Saint-Jean-Baptiste de Bourgoin, où on voit des scènes de Adam et Ève dans le paradis et Adam et Ève chassés du paradis. Donc le jardin est une notion très symbolique dans notre civilisation. Nous avons évoqué les jardins médicinaux au cœur des monastères du Moyen Âge, dont le cloître est conçu selon des règles très symboliques, très précises. Et le cloître est une préfiguration en quelque sorte du paradis, avec une fontaine dont s'échappent normalement quatre ruisseaux d'eau qui évoquent les quatre fleuves du paradis. Et on trouve une foule de plantes symboliques dans ce cloître, mais aussi autour des monastères, il y a d'autres types de jardins, on l'a dit, le jardin légumier et surtout le jardin des plantes médicinales. Et c'est à la base de ces plantes médicinales que les monastères, dans un premier temps pour soigner eux-mêmes et aussi les populations alentour, parce que ça faisait partie de leurs règles, eh bien, concoctait des élixirs qui, par la suite, vont devenir des liqueurs, qu'on retrouve chez nous avec des grands ordres comme les chartreux, et qui ont par la suite créé des liqueurs qui portent le nom de chartreuse. Voilà, et tous ces élixirs ont été concoctés après avoir consulté des écrits venant de la Grèce ancienne, des Romains aussi, et c'est parce que les moines savaient lire et décrypter tous ces écrits qu'ils ont pu faire ces sortes de recettes, cultiver des plantes. D'ailleurs, entre monastères, ils avaient l'habitude d'échanger des graines pour que cette connaissance des plantes se répande. Alors, le jardin médicinal, là, pour aujourd'hui, on fait quand même un grand saut, puisqu'on va parler du jardin de Versailles au XVIIe siècle. Il est vrai qu'entre les jardins médicinaux et l'époque de Versailles, il y a eu tous les jardins Renaissance très inspirés de l'Italie. Mais j'ai choisi quelques temps forts de ce qu'on avait pu évoquer l'année dernière. Les jardins de Versailles, donc, dont le chantier durera plus de 40 ans, sur 6000 hectares, avec 46000 ouvriers, donc je ne sais plus trop combien de chevaux. Et là, ce jardin qui au départ était symbolique, au temps de la Renaissance a été vraiment un jardin de détente. Là, avec Versailles, le jardin devient un outil de pouvoir. Il est conçu dans la perspective directe du château et il est conçu comme un lieu de réception dans la perspective du château lui-même et où on organisait des feux d'artifice, des fêtes, des concerts, des promenades et des banquets. Et cet outil de pouvoir sur les courtisans Louis XIV s'en sert parce qu'il veut garder sous son contrôle toute cette cour qui vient là pour l'admirer et le flatter. Et on imagine bien sûr combien d'intrigues ont dû être nouées à l'ombre des bosquets de Versailles.
Des intrigues et puis beaucoup d'amusement, j'imagine.
Oui, oui, parce que c'était des fêtes galantes. Les bosquets étaient conçus comme des petits théâtres de chaque côté du Grand Canal. Enfin, tout était organisé pour le spectacle, pour le fait de voir où le roi se promenait, comment on pouvait se faire voir du roi, parce que c'était ça l'enjeu quand on était invité dans les jardins royaux.
Est-ce qu'on y mangeait, par exemple ?
Je pense que des pique-niques, mais fastueux. Des pique-niques improvisés. Je pense qu'effectivement, il y avait tellement de personnel à la cour qu'on pouvait certainement avoir spectacle et occasion de se restaurer en attendant le spectacle ou entre deux spectacles. Et bien sûr, tout était fait pour le plaisir léger des courtisans.
Est-ce qu'on ne dit pas faire bombance ? C'est un peu ça ? Non.
Je ne sais pas l'origine de cette expression. Titane, il faudra la chercher, l'origine.
D'accord.
Et puis plus tard, eh bien, on quitte ces jardins très structurés, très réguliers, expression d'un pouvoir fort, pour des jardins inspirés de l'Angleterre. D'abord, on appellera ça jardin et parc à l'anglaise, où là, on est dans le siècle des Lumières et le jardin dit paysager se développe en France. L'idée, c'est de lui donner une allure faussement naturelle et sauvage. Voilà. Et il devient source d'inspiration pour des écrivains et pour des peintres, bien sûr. Donc, la priorité est accordée à l'aspect naturel du paysage, même si l'homme intervient pour l'ensemencement des graines ou pour la composition des couleurs, il faut entretenir l'illusion de la prédominance de la nature. Et on peut, dans notre région, bien sûr, on peut voir le château de Pupetière qui s'inscrit dans le vallon chanté par Lamartine. On est vraiment dans ce parc qui est mi-campagne, mi-parc, mais en même temps bien travaillé. Voilà.
Thank you.
Couleur FM 97.1, suivez le guide avec Elisabeth dans la rétrospective de la saison 2016-2017. Et pourquoi ne pas vous faire entendre en entier notre générique? C'est ce que nous avons eu envie de vous faire écouter en ce début de seconde saison. C'est donc « Alas Tres », joué par le Diap Quintet de l'album « Fourmilière ». Et puis je vous parlais de faire bombance, et nous avons pris le temps de cette musique, Elisabeth, pour se dire que faire bombance arrive au 19e siècle, on en parle, mais ça provient de faire ripaille, qui lui démarre au 16e siècle.
Voilà.
Voilà.
L'idée étant la même, qui était de manger abondamment, en manger et boire abondamment.
Et nous sommes donc après les jardins anglais.
Voilà, nous avons traité dans la précédente saison l'homme et les plantes, l'usage que l'homme avait fait des plantes et à partir de quand précisément les plantes ont été classées, répertoriées, tout ça était important. Donc, parce que c'est la naissance de la botanique, de l'ethnobotanique. Et en particulier, nous avons évoqué ce siècle fou de découvertes que fut le XVIe siècle pour la connaissance des plantes par l'homme et l'usage qu'il pouvait en faire de façon raisonnée et non plus empirique. Cette époque des grandes découvertes permit de rapporter des spécimens de plantes de pays lointains où elles avaient été étudiées in situ. On avait regardé surtout quel usage en faisait la population locale, puis elles ont été rapportées pour être inventoriées et cultivées si elles parvenaient à s'acclimater. C'étaient les plantes exotiques. Avec la découverte de ces nouvelles plantes, le savoir va évoluer, et plus particulièrement les connaissances médicales et botaniques. L'autre usage, évidemment, des plantes, ça a été aussi la passion des herbes. La passion des herbes qui permettait de donner aux herbes certaines légendes, leur attribuer certaines croyances ou certains pouvoirs. Ainsi, l'absinthe, par exemple, serait née dans les traces laissées par la queue du serpent lorsqu'il s'est enfui du jardin d'Éden. Oh. Donc tout est lié, on voit bien qu'on revient à la symbolique première du jardin d'Éden. Et effectivement, c'est très intéressant d'étudier ces croyances liées aux plantes qu'on a toujours. J'étais récemment en montagne et on a encore peut-être plus avec la signification première, mais en tout cas, on a beaucoup de portes d'entrée de chalets avec des carlines, avec des chardons, qui sont censés éloigner le mal, soit le mal des étables, soit le mal de la maison. Mais voilà, ce style de croyance, on en trouve encore des traces aujourd'hui sur les vieux chalets, par exemple. L'usage médical contre l'usage médical contre les maux d'intestin. Voilà, on a utilisé ces plantes dans un but précis. On en a parlé, de la cueillette, la nuit, on a parlé de tous ces rituels autour de l'usage de la plante. Un usage alimentaire aussi, par exemple l'absinthe, dans la composition de nombreuses liqueurs. Et en particulier à Bourgoin, on avait la distillerie Seigné, rue Joseph Seigné, qui faisait de l'arquebuse de Saint-Eudère. Saint-Eudère étant le saint de l'église de Saint-Chef. Et cette distillerie est arrivée sur Bourgoin. Et voilà, on avait sur les étiquettes de cette liqueur, on avait la représentation stylisée du cloître. Et c'était une liqueur qui était, digestive, c'était un peu ça l'idée. De toute manière, tout le Nord Dauphiné a été très riche en distillerie et en composition d'élixirs médicaux.
Et ça continue au niveau de la distillerie dans le Nord Isère.
Alors, on en parlera peut-être avec tout plaisir dans la prochaine saison, puisque on a sollicité des personnes de la distillerie Chéri Rocher. Mais il n'en reste pratiquement plus. Alors qu'elles étaient très nombreuses au XIXe siècle, parce que l'écosystème du Nord Dauphiné était très favorable à certaines plantes, en particulier l'armoise, et qui est à l'origine aussi de certaines liqueurs d'absinthe. Donc, sachant que l'absinthe a été interdite entre les deux guerres, oui, parce qu'elle était faite à base de bas alcoolat, et du coup, pouvait détruire des cellules du cerveau. Donc, cette interdiction a déclenché du coup une diminution des établissements en place. On a aussi évoqué les foires, les halles, parce que c'était nous avons voulu attirer l'attention sur ce patrimoine très présent dans nos villes et villages. Les halles, elles peuvent être petites, carrées, rectangulaires, le long de la route ou pas, ou au centre du village. En fait, on a des halles qui sont très connues, ce sont celles de Crémieux, couvertes d'un toit de lauze. Et puis, on a les halles de la côte Saint-André qui suivent la déclivité du sol en plusieurs sortes de paliers où chaque corporation se positionnait en fonction d'une place bien précise, sachant que les bouchers étaient au plus bas en bas, puisque du sang s'écoulait de leurs étals et qu'on ne voulait pas que le sang ruisselle tout au long de la halle. C'était un lieu commercial, bien sûr, la halle. C'est d'abord un toit sous lequel on fait du commerce et où se vendaient, entre autres, des plantes, des herbes, lors des jours de marché ou de foire, pour un usage alimentaire, pour un usage médicinal et aussi, on l'oublie un peu, pour un usage technique, parce que on avait des rempailleurs de chaises, on rempaillait avec de la lèche, c'est une sorte de roseau, et on couvrait aussi certaines maisons avec des toits de chaume, et donc on avait un vrai usage technique des plantes.
Ah oui, qui s'y trouvait déjà, donc.
Et on a évoqué les parfums. On a évoqué les parfums étroitement liés aux plantes. L'histoire du parfum était intéressante à retracer. Le parfum uniquement dédié aux dieux dans l'Antiquité, progressivement, son usage se développe auprès de la population. Les bonnes odeurs, croit-on, désinfectent et protègent des épidémies. On a évoqué le médecin de la peste avec son grand bec qui était rempli de justement d'herbes qui aseptisaient l'air qu'il remuait auprès du malade et qu'on appelait le corbeau étant donné qu'il avait ce bec-là. Et ça illustre bien cette croyance par rapport aux odeurs. Aussi, lorsqu'on accueillait un roi dans une ville, eh bien, on nettoyait les rues vraiment très vite, mais on répandait énormément d'herbes aromatiques pour que les mauvaises odeurs
se diminuent.
Et puis, effectivement, c'est quand même venu d'Espagne et surtout d'Italie avec les Médicis. Les parfumeurs étrangers s'installent à Paris et les gants parfumés envahissent la France. Donc, en fait, la parfumerie, au départ, était liée à la ganterie. On a eu, avant d'avoir des parfums pour femmes et pour hommes, quand on a différencié, eh bien, c'était des gants parfumés. C'était très, très important. Et au fil des siècles, il ne concernera plus donc uniquement les femmes, mais aussi les hommes. On concevra des parfums typiquement pour l'un et l'autre.
Et comme tout se commercialise, j'ai vu qu'il y avait pour les enfants, pour les bébés, on pouvait offrir
des choses non alcoolisées, mais effectivement.
Parfumées, oui, sans alcool.
Voilà. Mmh. Enfin, on va aussi pouvoir se régaler dans la prochaine saison avec Jean-Pierre Guillot qui accepte de venir à notre antenne. C'est super intéressant. Parce que Auvergne-Rhône-Alpes, notre région en tout cas, a été une terre de roses au 19e siècle. Et on peut se demander comment cette simple fleur bardée d'épines a pu devenir de médicinale au départ, source d'inspiration poétique, artistique, religieuse et à ce point mythique. Cette fleur est unique dans sa symbolique, elle a été bien sûr utilisée dans l'ornement religieux, en référence toujours très souvent à la Vierge. Et nous avons tout particulièrement évoqué la place exceptionnelle de la région lyonnaise qui a occupé dans l'histoire des roses au XIXe siècle. Et il y avait environ 70 rosieristes dans le XIXe siècle autour de Lyon. Aujourd'hui, c'est moins, mais la rose garde son attrait, sa superbe. Créer une rose, on le verra dans la saison prochaine, c'est un véritable acte d'admiration pour une personne ou symbolique pour son œuvre ou son histoire, et ce n'est pas un acte anodin. Et mon Dieu, avoir une rose à son nom, eh bien, c'est un beau cadeau.
Élisabeth, j'attends avec impatience le deuxième numéro de ce Suivez le guide. Merci beaucoup. À plus tard. Et puis merci Laurent à la régie.